Hey, nasal trimmer, Duracell Bunny here. No offense, but you've probably got the worst job ever, and you're possibly the worst Christmas gift ever. But look, Sally is trying to drop her husband some not-so-subtle hints about his not-so-subtle nose hairs. Anyway, these Duracells will keep you powering on through miles of nasal passages. I'm so sorry. Pick up Duracell this season and power on.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre arc, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là en direct, comme tous les soirs, bien sûr, l'After, l'émission qui a dit tout ce que le monde du football pense tout bas, en direct sur RMC, en direct sur RMC Sport News. En même temps, on est à la télé, on est à la radio, on est partout, et surtout on est comme tous les vendredis avec Ludovic Obraniak. Ludo, bonsoir.
Salut à tous.
Et avec Jonathan Macardy.
Bonsoir les amis.
Évidemment, l'équipe.
Est-ce que le perfecto, c'est comme ça, c'est admis ou pas?
Ouais, ça passe.
J'ai un t-shirt de Guns N' Roses, ça passe.
Bah, c'est pas vraiment
l'élégance.
Est-ce
qu'avec Gilbert, c'est l'after de l'élégance?
Oui, Gilbert est très élégant, toujours.
Nicolas Jamin, il est pas élégant, lui, d'habitude.
Si. Mais il dit, Nico Jamin dit, c'est l'after de l'élégance qu'on est tous les
jours. Voilà, mais toi, t'es pas.
Ça marche avec toi.
Ouais, mais toi, t'es de moins en moins élégant.
Il s'est autoproclamé élégant.
Bien sûr.
Il est bon, lui. Alors, évidemment, on va parler de Lille-Montpellier principalement, mais aussi de Lyon, puisque le rebondissement continue concernant l'affaire Marcelo. Ce soir, on espère que les Lyonnais viendront débattre avec nous. Je sais qu'ils ont été nombreux à appeler toute la semaine dans l'after pour débattre de la situation lyonnaise. On fera ensemble tout à l'heure le point sur ce qui s'est passé avec cette question. Les bad gones ont-ils pris en otage l'OL?
Est-ce qu'on aura un vrai bad gone?
C'est possible,
bien.
Au 32
ça, bien. On les invite à appeler.
Ouais.
On les invite à appeler.
Oui, alors d'habitude,
il y en a un qui nous appelle le vendredi. Ouais. Le Lyon joue, si s'il te plaît. Je crois que c'est Anthony, appelle.
Du fond, il faut qu'on ait un mec des bad gones.
Tout à fait. Appelez-nous, messieurs. Appelez-nous. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Lille bat Montpellier 2-1. Il y avait de la Ligue 2 aussi ce soir. Je vous donne les principaux résultats. Vous dire notamment que Lorient, en haut du classement, a gagné face à Auxerre. Et puis tout en bas du classement, l'avant-dernier jouait le dernier. Le Mans a battu Orléans. 3-2. Vous retrouvez tous les autres résultats sur rmcsport.fr. Oui.
Auxerre, ils ont encore perdu.
Arrête.
Stop. Non, mais je pensais qu'avec Jean-Marc. Je pensais qu'avec Jean-Marc, on allait pouvoir.
Ah oui, c'est vrai.
Stop.
Qu'est-ce qu'il fout, ton pote, là?
Bah, je pense simplement qu'il a pris une situation qui était très compliquée, qu'il avait un entraîneur qui était incompétent avant et que ça a pris une saison et demie pour redresser la barre.
Alors, je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup Jean-Marc Furlan. Il fait avec un effectif qui n'est pas un très bon effectif. Il faut mettre un effectif à disposition. Moi, j'ai. L'effectif qui est actuellement en place, c'est l'effectif que j'ai connu moi quand j'y étais il y a 2 ans et demi. Donc,
il y a peu de
Jean-Marc Furlan, faut lui donner des cartouches.
Bon, on va voir. Hein, c'est pas non plus, on ne sont pas au bord de relégation, les Océans.
Non, mais bon.
C'est pas à la hauteur de ce.
Ça prendra. Ça prendra au moins un an.
Non, oui. Attends. Excuse-moi, je regarde le classement. Auxerre. 14e de Ligue 2, c'est leur place normale.
C'est la place normale,
C'était un truc hallucinant qu'ils aient été en Ligue 1 aussi longtemps.
Le problème, c'est la différence entre la perception de ce qu'on a. Le problème, c'est entre la différence entre la perception et les attentes que l'on a avec un entraîneur de la classe de Jean-Marc Furlan. Il a un effectif qui est moyen. Je pense que cet effectif, il peut en faire quelque chose, mais ça va prendre une saison. Ludo a raison.
Ça va au-delà.
Ils ont été déformés par Correa.
Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que.
C'est la structure du club qui est n'importe quoi.
T'as la chance d'avoir un investisseur qui est vraiment très solide. Je tiens à le signaler quand même parce que Monsieur Zhou, le chinois, est quelqu'un de très.
Tu connais Monsieur Zhou ?
Oui, je connais Monsieur Zhou.
Très bien.
Il a des zous.
Il a des zous, Monsieur Zhou.
Non, mais au-delà de ça, il a contribué au fait de développer principalement les infrastructures. Après, j'ai remarqué que l'équipe a pas énormément bougé.
Non, elle a pas bougé vraiment.
Jean-Marc Furlan, c'est pas l'équipe qui.
Jean-Marc, il attendait un avant-centre d'ici la fin août, il a jamais eu.
Alors le but du jeu n'était pas vraiment de faire l'after Auxerre.
Oui.
C'était toujours intéressant de faire 2 minutes sur la GIA.
C'est Jean-Marc Furlan.
Tout de suite les 3 points parce que l'essentiel c'est les 3 points, vous le savez.
Plaisir.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Ah oui, les trois points de débat de Ludo, de Jonathan, après cette soirée. Bon, du coup, c'est pas la peine de mettre au cerf dans les trois points, Ludo, s'il te plaît. Jonathan, nous t'écoutons. De quoi
Lille,
tu parles ?
Alors, le premier point, c'est que Lille enchaîne, malgré tout, malgré une performance qui n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on en pourrait attendre de cet effectif-là. Mais c'est encore une victoire avec un but d'écart. Ils les enchaînent, les victoires, avec un but d'écart. Et il faut dire que cette équipe à domicile est vraiment redoutable. Le deuxième point. Je dois avouer que Ludo avait raison, c'est le renouveau de Renato Sanchez. On était beaucoup à ne plus y croire. Et là, on le voit avec un petit peu de confiance, avec un petit peu d'entraînement. Il revient. Ce soir encore, il est extraordinaire après son dernier match où il avait été vraiment très bon. Là, il est décisif et extraordinaire. Donc, c'est vraiment un point en plus pour le LOSC. Et le troisième point, il faut quand même avouer, cinquième victoire d'affilée pour Lorient. Et il faut qu'on le dise parce que l'année dernière, on lui a tressé des lauriers avec Ludo. C'est que Pélissier, c'est quand même un putain de bon entraîneur.
Ludo, tes trois points.
Bah comme Jonathan vient de le dire, Renato Sanchez, la résurrection de Renato. Mais simplement, il fallait à un moment donné lui laisser un peu de temps, lui laisser enchaîner les matchs. Et c'est un garçon qui a une qualité de, en tout cas sur les premiers mètres, d'élimination, de percussion, le rapport poids-puissance est exceptionnel chez lui. Il fallait lui laisser juste un petit peu de temps. Alors je pensais pas qu'il se développerait sur le côté droit, mais encore une fois, Christophe Galtier a su trouver le bon coaching pour pouvoir justement développer les qualités de Renato. Deuxième, c'est Lille au bon endroit au bon moment. Parce que je l'avais dit, il fallait à un moment donné pour Lille être dans les trois premiers avant la trêve. Ils le sont, malgré le fait que ça marche pas vraiment.
C'est pas encore ça, ouais.
C'est pas encore ça. Troisième point, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ben les Bad Goons. Moi, je veux bien qu'on m'explique beaucoup de choses. J'attends d'avoir les Bad Goons en direct parce qu'ils s'expriment beaucoup, mais ils s'expriment pas publiquement.
Oui, ils s'activent beaucoup, mais ils ne parlent pas. Beaucoup.
Donc, ouais. On les attend.
Ça fait un petit peu.
Appelez-nous qu'on comprenne parce que
c'est le principe des ultras. Hein.
On comprend pas tout.
Regarde le vraiment. CU à Marseille, c'est pas forcément comme ça quand c'est
excuse-moi, mais non, le CU ou machin, tu les vois s'exprimer dans les médias.
Moi, j'aimerais vraiment quelqu'un des badminton nous appelle et qui nous explique leur prise de position. Et j'espère qu'Anthony nous appellera parce qu'il nous appelle tous les vendredis.
Bon, moi, mes trois points, c'est à peu près les mêmes que vous, donc c'est pas la peine que je détaille. Gagnons du temps. Non, mais j'avais mis Renato Sanchez. J'avais mis quand même Montpellier, c'est quand même pas mal. Tu vois, j'aimerais qu'on te dise
un peu déçu.
Ouais, un peu déçu ce soir.
Tu sais, Gilbert,
il y a un truc qui se dégage de cette équipe.
Gilbert,
malgré
c'est
tout.
Vrai. Ludo et moi, quand on fait on est tous les week-ends, à chaque fois on dit Montpellier doit être un candidat crédible pour le top 5, voire pour le top 3 de Ligue 1. Là, par rapport à ce qu'on a vu d'eux, on est un petit peu déçu parce que en termes d'intensité, d'intention de jeu, on va en parler pour quand on va débriefer le match, mais on était loin du Montpellier qu'on a l'habitude de voir.
Notamment à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à domicile, ils ont le fait du public, ses talents à l'extérieur.
Le public à Montpellier, excuse-moi. Ouais. Ils sont super sympas, on y est déjà avec la sœur.
Si, ça marche quand même.
Il n'y a pas une pression de ouf, le stade est à moitié vide.
Ça marche quand même. Mais à l'extérieur, force est de constater que c'est un peu plus compliqué.
On va avoir à dire sur Montpellier quand même. Il y a deux, trois.
On démarre avec Lille et Renato Sanchez parce que Lorenzo veut en parler. Lorenzo, 32-16, bonsoir.
Oui, Gilbert, bonsoir.
Salut Lorenzo.
Je vous explique. Moi, je suis un supporter italien du LOSC. Moi, je suis le LOSC depuis.
Comment ça se fait, Lorenzo?
Gilbert, bonsoir. Nous, on n'a pas.
Non. J'ai salué lui. Bonsoir à vous, les gars aussi.
Est-ce que vous êtes supporter du LOSC?
En gros, moi, ça fait 5 ans que je suis en France. Là, maintenant, je suis sur Toulon pour un master, mais j'étudie à Lille. J'ai fait ma licence là-bas. Et voilà, moi, je viens du sud de l'Italie. Donc, à Lille, j'étais habitué à.
Tu te dis, je vais dans le nord de la France.
Samedi. Et voilà, j'ai apprécié les gens, le stade, l'équipe, et franchement, ça fait
plaisir. C'est pour qui en Italie, Lorenzo?
Très bon choix, Lorenzo.
Mais en fait, quand j'étais petit, j'étais pour la Juve, mais en gros, j'ai jamais vraiment eu une équipe. Nous, dans le sud, on n'a jamais été habitués à avoir vraiment une équipe à suivre en Serie A, sauf Lecce, qui maintenant est revenu, et donc, voilà. Bon. C'est un peu comme ça. J'ai apprécié le LOSC pour
Lorenzo, ça. Dis-le, depuis que Simone est là-bas, t'as plus envie de suivre la Juve, quoi.
Non, c'est pas ça. Et bah voilà, en fait, comme vous parlez de Renato Sanchez, et même Ludo, il le disait, en fait, le LOSC, il est dans le bon endroit au bon moment parce que moi, par la prestation de Renato Sanchez et les trois points, je trouve pas grand chose ce soir. Juste parce que je pense que ça fait un mois que le LOSC a des grosses difficultés à développer le jeu devant. Même si devant, t'as un mec par rapport à l'année dernière, un numéro 9 comme Osimhen, il peut vraiment marquer avec une occasion. C'est un peu à l'Icardi. Et après, en défense, j'ai vu deux ou trois choses pas bien.
Ah, t'as raison.
Dès lors, il pouvait marquer le deuxième but facilement.
T'as raison, Lorenzo.
Et voilà.
Oui, Lorenzo. Tu parles de Fonte, là?
Oui, bah, il a fait deux ou trois choses. Mais en fait, premier but, il lui passe entre Fonte et Gabriel. Et sur le deuxième, où Maignan, il fait un gros arrêt, selon moi, et on n'a pas l'impression qu'il fait un arrêt comme ça. Bah, il y a une grosse erreur, parce que soit il le tue avec une faute, soit dès lors, bon, il est passé, il était en train de marquer, voilà.
Lorenzo, t'as totalement raison, parce qu'il y a une chose qu'on pointe sur le LOSC depuis 3-4 semaines, c'est qu'ils sont remis la tête à l'endroit, il n'y a pas de problème là-dessus, mais derrière, alors que c'était leur force l'année dernière...
Oui, c'est leur quatrième victoire consécutive en Ligue 1, quand même.
Ouais, avec un but d'écart, tu remarqueras. Derrière, on sent que c'est quand même un petit peu plus friable. Et Fonte, comme Jonathan, Gabriel, on est un peu sceptique.
Avec Jonathan, on avait pointé depuis un moment le fait que, ok, ça fonctionne, mais derrière, il y a moins d'assurance qu'en début de saison.
Et Fonte et Gabriel, les deux. C'est les deux.
Moi, je pense que c'est un peu l'âge.
Et ça
même
ça
l'âge de Fonte, il est un peu fatigué, mais tout le monde est fatigué.
L'âge, tu dis l'âge, Lorenzo, tu as dit l'âge.
Oui.
Moi, je pense pas que c'est forcément l'âge.
Bah, regarde en face, t'as Hilton, il est plus jeune.
Lorenzo. Je pense que le problème cette année par rapport à l'année dernière, c'est le système défensif dans son ensemble. Soumaoro, André sont deux très bons milieux de terrain, mais ils apportent moins de couverture que ce que pouvait apporter Thiago Mendes l'année dernière. Et du coup, t'as ta charnière qui est quand même un petit peu lente, il faut le dire. Gabriel et Fonte, c'est deux très bons défenseurs, mais qui sont quand même un petit peu lents. Et du coup, si t'as pas cette protection au milieu de terrain, forcément, tu te retrouves un petit peu plus exposé. Et là, sur ce match-là, on l'a totalement vu. Deux, trois fois, on dit Delors qui n'est pas le plus rapide des avancantes, les a pris en profondeur.
Oui, non, mais en fait, moi, j'avais apprécié le fait qu'il avait commencé à mettre la défense à trois. J'ai vu que même au niveau de la sortie du ballon, ils arrivaient quand même à passer le ballon soit côté trois, soit côté gauche avec un peu plus de facilité. Et derrière, c'était un peu plus
côté
couvert,
gauche, surtout, Lorenzo.
Quoi?
Côté gauche, surtout,
oui,
Lorenzo.
Bien sûr.
Parce que Bradarić, on aime beaucoup. Lorenzo, Bradarić, on aime beaucoup, mais défensivement, c'est très compliqué, je trouve.
Oui, bah, je pense qu'il doit prendre des choses tactiquement encore.
Oui, on est d'accord. Il t'apporte beaucoup dans le dynamisme. Sur le côté droit, il prend son couloir. Il a une bonne qualité de centre. Je trouve que dans ses dédoublements, il est intelligent. Mais là, 3-4 fois dans le match, il est totalement désaligné de Gabriel. Et Gabriel ne sait plus où donner de la tête. Il regarde si Bradarić est là. Il regarde si André assure la couverture. Et au final, tu te retrouves un petit peu en difficulté. Alors que, de base, c'est pas une situation qui est très compliquée à gérer.
Merci Lorenzo.
Et juste une petite dédicace. En fait, je voulais saluer Idriss et Aposto. C'est les deux potes français qui m'ont amené à écouter cette émission. Et aussi la community Facebook La Francianelle Pallone, en fait, c'est une page Facebook où moi et des collègues, on s'amuse à écrire des histoires sur la Ligue 1 pour le faire découvrir aux Italiens, Ligue 1.
Et c'est quoi l'histoire la plus fun que t'as écrite sur la Ligue 1, Lorenzo?
Les Italiens, ils s'intéressent vraiment à la Ligue 1?
En fait, la page, je l'ai beaucoup suivie. On a 5000 personnes qui nous suivent.
C'est pas mal.
C'est parce qu'en fait, les Italiens, ils kiffent le fait que la Coupe de France, il y a des matchs, par exemple, d'équipes de National 3 ou de DH qui vont jouer avec des équipes de Ligue 1.
Et ça pour le
système. Non, mais parce qu'il y a des histoires, il y a des fois.
Ah, ils aiment bien l'histoire du boulanger du village qui joue contre les pros, quoi.
Lorenzo.
Oui. Lorenzo. Mais nous, on a un système un peu différent pour la Coppa Italia. Donc
bah oui, c'est pas pareil.
Ça,
oui. Lorenzo, en Italie, quel est le club préféré des Italiens français de Ligue 1?
Naples.
Non, français.
Des Français ou des Italiens? L'OM, parce que c'est historique.
Merci.
Et maintenant le PSG.
On est jumelés. Les ultras de l'OM sont jumelés avec les ultras de la Samp. Voilà, et ça veut tout dire. Voilà.
Il y a Lyon aussi parce qu'il a gagné beaucoup de fois le championnat. Il était toujours en Champions League. Et le PSG maintenant pour le petit. Voilà.
Nous on est jumelés avec la Samp.
Merci Lorenzo en tout cas.
Ciao Lorenzo.
Merci Lorenzo.
Merci à vous. Ciao les gars.
Salut.
Non mais et en même temps, tu connaissais la réponse avant de poser la question.
Mais bien sûr.
On est jumelés avec la Samp.
Ah mais très bien. Mais heureusement que Marseille reste le club français le plus populaire d'Italie. C'est logique, géographiquement, historiquement, tout.
Ça pourrait être Nice.
Alors que Marseille, non.
Géographiquement, ça pourrait être Nice.
Non, Marseille, c'est le jumeau, c'est le jumeau de Naples.
Non, pas du tout. Bon. On est jumelés avec la Samp et les ultras de la Samp sont contre ceux de Gênes et les ultras du Napoli sont jumelés avec les ultras du Genoa. Ouais. Du coup, en fait, quand Naples vient à Paris, tout le monde dit c'est la fête, mais en fait, il y a des bagarres sur les aires d'autoroute.
S'il y a bien un club auquel l'OM ressemble, c'est bien Naples.
Oui, mais on les déteste. Et nous déteste.
Mais alors, les Italiens aiment beaucoup Monaco.
C'est vrai.
Ouais, le côté Riviera,
Comment il s'appelle?
Bling, tout ça.
Il y a Flavio Briatore qui a une boîte à Monaco, tous les Italiens.
Vous savez que la première radio musicale d'Italie, c'est RMC.
Bravo.
C'est la RMC italien qui est une émanation historiquement de nous.
Quel genre de musique qui passe?
Ouais, enfin, c'est
qui
pas,
a été créé
c'est pas,
dans les années.
Quel genre de musique qui passe?
C'est Radio Monte Carlo.
Oui, non, mais c'est à la base, ça avait
Monte
été.
Monte Carlo.
Ça avait été créé par nos prédécesseurs.
Quel genre de musique qui passe?
Du RMC français. Bon, il passe
Zucchero.
Non, ça c'est pas. Non, Daniel n'écoute pas ça.
Daniel, c'est, il adore Daniel. Il a des goûts de merde, il adore Zucchero.
Ah, Zucchero et Ramazzotti. Ouais, Eros Ramazzotti. Ah, c'est Daniel, c'est ses goûts, qu'est-ce que tu veux?
Et Eros Ramazzotti.
On n'y peut rien.
Ah, il a des goûts de merde.
Renato Sanchez.
Est-ce qu'on peut réhabiliter Fred Picken pour sa playlist quand même?
Ah, vous avez entendu ça?
Ah, bah oui.
Ah non, c'est de la merde.
Non, moi je.
Mais qu'est-ce que t'en sais? Toi, t'étais pas dans la voiture pour savoir.
On a parlé, c'est de la merde.
Non, je soutiens non. Fred, moi.
Non, il y avait un peu de tout. Ouais, du rap, du zouk. Voilà.
Une playlist où il n'y a pas Led Zeppelin et les Rolling Stones, c'est de la merde.
Peut-être qu'elle y était.
Non, je pense pas. J'aime beaucoup, mais il a pas assez mon goût pour avoir les Led Zeppelin et les Rolling Stones. Enchaîne.
Dans quelques instants, nous sommes de retour pour parler de Renato Sanchez, bien sûr. Mais avant cela, laissez-moi vous rappeler que le grand jeu de Noël continue ce soir. Exactement. Le grand jeu de Noël, la boîte est là. Le cadeau est dedans. Donc, vous pouvez envoyer Noël par SMS au 732-16 dès maintenant. Noël par SMS au 732-16 dès maintenant. N'hésitez pas à le faire, bien sûr, pour gagner le cadeau du soir. On a plein de trucs hein, en magasin. On a des télés, des iPhones, des tablettes. Hier soir, c'est un iPad qui a été gagné dans l'after. On a, qu'est-ce qu'on a encore? Des appareils photo, des enceintes Bluetooth.
Xbox 4.
Les Xbox 4, ça c'est, oui, ça c'est chez Moscato ça. Lui, t'as inventé l'Xbox 4 et la PlayStation 360. Il est fort. Bon, en tout cas, là c'est l'after, donc n'hésitez pas. Noël par SMS au 732-16. On continue de parler de Lille, de Montpellier, ouais. Un peu de Ligue 2 et de Lyon dans quelques instants. Et bien sûr, pour faire le point, Rudy Garcia s'est notamment exprimé aujourd'hui concernant le cas Marcelo. A tout de suite dans l'after.
RMC.
L'afterfoot.
RMC.
L'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Avec, comme tous les vendredis, Ludovic Obraniak et Jonathan McCarthy. L'after est là, bien sûr, jusqu'à minuit. On est toujours sur le match Lille-Montpellier avant de parler de Lyon dans une petite demi-heure, bien sûr. On vous attend pour débattre du cas lyonnais, car les choses ont encore évolué aujourd'hui avec des déclarations de Rudy Garcia. On l'entendra tout à l'heure. Renato Sanchez, on va accueillir Guy au 32-16 qui veut en parler. Guy est supporter lillois. Salut Guy.
Oui, salut Gilbert.
Salut Guy. Salut Guy.
Bonjour Jonathan et un grand bonjour à Ludo.
Salut Guy.
Mais merci encore pour ton coup franc. Ben,
avec plaisir. Même si, rien.
Même si ton retour avec Bordeaux, avec Bordeaux. Fait très mal.
T'inquiète pas qu'à Marseille aussi, on le remercie pour son coup franc.
Non mais écoute, j'avais des comptes à rendre avec Rudy. Bon, ça va.
Oui, mais tu pouvais. À limite, voilà, tu pouvais.
Ah, toi réglé. Aussi, t'avais des comptes à régler avec lui.
Oui, mais ça s'est fait très vite. En fait, ça s'est réglé très vite.
Parce que t'as marqué.
J'ai mis un triplé.
Je suis parti de Lille et je crois que trois semaines après ou un mois après, je suis revenu avec Bordeaux à Lille.
Au Stade du Nord.
Voilà, alors que j'aurais pas dû jouer ce match-là. Lille avait demandé à ce que je joue pas. Et Jean-Louis Trio m'avait forcé à jouer parce qu'il m'a dit t'es pas prêté, t'es acheté. Donc les accords.
Il avait raison, Trio.
Oui, il avait bien raison. Bien sûr, les accords, ça tient pas. Donc.
Et t'en as marqué quoi? Deux
ouais,
ou trois?
Ouais, j'en ai marqué deux, dont notamment le dernier à la 93e minute.
Et donc là, t'en voulais à Garcia, donc une fois que t'as marqué, qu'est-ce que
ouais,
t'as fait?
J'en voulais.
T'es pas allé le chambrer quand même?
Ouais, j'en voulais vraiment, allongé, même pas.
Non, c'était
même
mignon.
Pas. J'ai même pas eu besoin de chambrer quand j'ai vu les vidéos après où il était dans son banc, la tête dans les mains. Enfin voilà, c'était suffisant pour moi.
Elle est fouteux quand même.
Bah, tout à l'orgueil. Un peu d'ego.
C'est
mais bien
terrible.
Sûr. Mais tu sais quoi, Gilbert, j'aurais. Dans ma tête, c'était pour moi, j'aurais fait ma carrière à Lille. Je me sentais tellement bien dans ce club, j'aimais tellement ce club.
Quoi, c'est Garcia qui t'a foutu dehors?
Non, pas vraiment, mais ces décisions ont fait que j'ai été obligé de partir pour pouvoir continuer.
Mais Ludo, sur RMC, tu as dit que tu étais en conflit aussi avec Payet, quoi. Tu avais des relations qui n'étaient pas très.
Avec qui?
Avec Dimitri Payet.
Non, pas vraiment.
T'as jamais dit ça.
Non, pas vraiment. J'ai pas dit ça. C'est-à-dire que Dimitri, en fait, on est arrivé, on était en concurrence les deux. Le problème qui s'est posé, c'est que Rudy m'avait dit que je serais en concurrence avec Dimitri. Et j'ai trouvé ça très sain parce que Dimitri, je savais que j'allais le bouffer. Je savais que j'allais le bouffer sur la durée. Mais en fait, ce qui est rentré en ligne de compte et ce qui a vraiment déterminé mon départ, c'est l'arrivée de Joe Cole. Il a fait signer Joe Cole le dernier jour du mercato, alors que vous le savez pas. Mais moi, je négociais avec à la base Jean Fernandez quand il arrivait à Auxerre. et qui avait ce, il avait récupéré ce groupe de, avec l'Ajax, le Real.
Ah oui, la Ligue des
voilà,
Champions.
Voilà, la Ligue des Champions.
Et
Jean Fernandez voulait me récupérer. Sauf que Lille m'a bloqué en me disant que j'allais être en, voilà, que j'allais être en concurrence avec Dimitri. Sauf que le dernier jour du mercato, ben, voilà, Rudy a fait signer Joe Cole. Donc le deal était pas respecté. Et, six mois après.
Bon alors Guy, soyons, comment dirais-je, direct. Si tu devais refaire faire un choix entre voilà, maintenant je reprends le grand Aubraniac de la grande époque ou le grand Payet. Tu choisis qui? T'as choix entre un des deux, hein. Payet ou Aubraniac, tu prends qui?
Si tu veux, le problème de Payet, tout le monde connaît, c'est son inconstance, quoi. C'est 3 mois ou 6 mois exceptionnels et pour disparaître après. Et mais bon, moi je vais.
Donc tu prends qui?
Je prends Ludo parce que.
Ça va. Je prends pas Ludo parce qu'il est là. Hein, du...
Qui n'aurait pas choisi Ludo, je serais venu, je t'aurais mis une gifle. Hein.
Non, mais je vais te dire, il a gagné la Coupe de France, il nous a fait coup franc. Donc j'étais demandé des souvenirs avec mes enfants. Bah, c'est Ludo. Point barre.
Merci. Hein.
Bon,
merci.
Alors, le match ce soir alors.
Maintenant que tu as bien ciré Ludo, parlons un peu de Renato Sanchez, si tu veux bien.
Écoute, on était peut-être un peu sceptiques pour beaucoup. 25 millions, Renato Sanchez. Bon, début de calendrier un peu discret, puisqu'il n'est pratiquement pas joué. Puis là, le réveil, et bah, moi, je paye pour voir des joueurs comme ça, quoi. Ce qu'il a fait à la fin, c'est le football tel que l'on l'aime, des manières de ballon, comme on n'en a pas beaucoup dans le championnat de France.
Il n'y a pas que ça.
Enfin, sauf que le problème, c'est que c'est le seul vrai bon match qu'il a fait.
Non, c'est pas vrai.
Donnez-moi les matchs de Lille.
Il a été extraordinaire.
Ça fait 4
extraordinaire.
Ça fait 4 matchs qu'il est très
bon. Il monte en puissance, mais
Guy, très bon. Le dernier match de Renato Sanchez, tu l'as trouvé comment? Pas celui-ci, le dernier.
Je vais pas dire extraordinaire, mais très beau, très bon.
Ouais, très bon. Ah,
et, 87% de passes réussies, 6 passes clés. Il était déjà en puissance.
Elles sortent d'où tes stats là? Tu viens de les inventer?
Non.
Alors on vérifie. C'est l'UEFA qui les a donné.
On vérifie.
Ah, tu parles du match de Ligue des Champions qui servait à rien?
Non, le match d'avant Ligue 1.
D'accord.
On va vérifier.
Guy les supporters assidus. Renato Sanchez depuis 4-5 matchs.
Ouais, bien sûr.
Je l'avais dit, moi, enfin, j'avais une confiance vraiment. Bon, je dirais pas.
Total, mais
j'avais une vraie confiance en ce garçon. Il était clair qu'il avait des capacités. Qui avait été vu notamment au Bayern de Munich, mais encore avant. Mais voilà, il était clair qu'il allait, en enchaînant les matchs, il allait pouvoir récupérer une certaine constance, régularité. Mmh. Il avait vraiment besoin de ça, d'enchaîner les matchs, parce que, mine de rien, quand tu joues une fois sur deux, une fois sur trois, moi je l'ai connu, c'est très difficile de pouvoir être à son meilleur niveau. Là, il enchaîne. Voilà, ça fait 4 matchs qui nous montrent que c'est et encore c'est pas son poste côté droit, c'est même pas son poste, mais il a telle capacité de le rapport poids puissance est exceptionnel.
Il marque à gauche en plus là, hein. Il est sur le côté gauche. Mais moi, ce que je trouve formidable, et c'est ce qu'on n'a pas beaucoup dans le championnat de France, c'est un perceur de ligne. Mmh. Il te traverse les lignes. C'est en ça. Première mi-temps, il l'a fait. C'est tellement agréable, des joueurs comme ça qui ne sont pas dans la latéralité, mais vraiment à jouer le 1 contre 1.
Ouais, il casse des lignes constamment.
Et ça, c'est
par la passe ou par la course.
Voilà, absolument. Ouais. Et moi, je paye pour voir des joueurs comme ça. Quoi. Ce qu'il a fait à la fin sur Souquet, c'est venir à manière de ballon comme ça. Ça se regarde, ça se déguste. On essaye de faire ça le dimanche, on est ridicule, mais voilà, c'est du plaisir, que du plaisir.
Alors, j'ai retrouvé les stats.
Guy, on est qu'aux prémices.
J'ai retrouvé les stats pour le match de Brest.
Attends, parce que là, Ludo, il est en train de dire que Renato Sanchez, c'est.
Je vous le dis, on est qu'aux prémices. Ce joueur va être le leader de cette équipe. Je l'ai vu.
Ah ouais, mais tu nous fais. Là, non, je t'en parle, on dirait que tu nous parles de la mec qui va être dans le top 10 mondial. Là.
Non. Peut-être pas, mais je pense que ça sera le leader de l'équipe
du LOSC. Je le vois parler aux joueurs, je le vois depuis un certain temps. Notamment, à un moment donné, on l'a vu avec Osimhen.
Moi, je demande à voir quand même.
Avec Osimhen, qui est le meilleur buteur. Quand même. Et un peu de respect pour le meilleur buteur. Je l'ai vu lui parler. Notamment sur ce match de Ligue des Champions où Osimhen, il est à droite, il met des centres au cordeau, où Osimhen, 3 fois et pas à l'endroit où il doit être à ce niveau-là. Et lui, il vient, il lui parle, sans s'énerver, il lui explique, voilà, tu dois être Voilà, bon. À ce niveau-là, tu dois être.
On parle de deux joueurs très jeunes. Là.
Non, mais Gilbert,
ouais, mais non, Gilbert très jeune.
J'ai trouvé mes stats.
À Lille, c'est pas. Bah, voilà, c'est pas. À Lille, on a des joueurs très jeunes, mais il faut, ouais, il faut des mecs comme ça qui.
C'est un leader technique.
Voilà,
c'est un leader technique, mais t'as raison.
Non, mais au-delà d'un
leader technique. Bon, passons au dossier suivant.
Attends, juste te dis. Contre Brest, 77 ballons touchés, 85% de passes réussies, 6 passes clés. Il monte en puissance. Ça fait 2-3 matchs, on le voit. On les.
6 passes clés, ça veut dire quoi, 6 passes clés?
C'est des passes qui créent des occasions de but.
Ah bon?
C'est important.
Non, mais ça me fait toujours rire sur le truc.
Non,
c'est comme le concept de passe décisive, non, ça n'a aucun sens. Mais bon.
Ces centres sont vraiment très intéressants.
Moi, je suis pas là forcément pour aller contre ce que vous dites sur Renato Sanchez. Je vois aussi qu'il fait quelques bons matchs. Mais enfin, moi, j'attends encore de voir sur la durée pour
qu'on est d'accord.
Voilà.
Ce qu'on dit, c'est que ça fait
3-4
matchs.
Si on disait Thomasson à Strasbourg.
Ah, touche pas à Thomasson.
Ah, voilà. Touche pas à Thomasson.
Ça fait 3-4 matchs que Sanchez monte en puissance et qu'on voit qu'il prend de l'importance dans l'équipe. Là encore ce soir, mis à part le but qu'il met, on le sent très impliqué. On sent surtout qu'il a retrouvé un coffre physique qui est assez intéressant. Parce qu'auparavant, quand Galtier le mettait à droite, on sentait que son latéral droit était un petit peu dans la merde parce qu'il faisait pas les efforts. Là, on voit qu'il est capable de faire les efforts, de balayer tout son couloir. On sent qu'il reste lucide dans les zones de vérité. Et ce soir, il fait un très bon match. Alors, est-ce que c'est encore parfait? Non. Mais est-ce qu'il monte en puissance? Oui.
Merci Guy.
Merci à vous, monsieur.
Salut Guy.
Merci. Quand tu veux pour parler du LOSC, Ludovic Obraniak, que tu pourras comparer la prochaine fois, peut-être, je sais pas, à Azanovic, à qui d'autre?
Asimovic.
Asimovic, pardon.
Asimovic.
Asimovic, pas Azanovic, t'as raison.
Avec plaisir. Bonne soirée, monsieur.
Salut.
Bonne soirée, Guy.
À qui? À Jason Boutoil.
Je suis largement au-dessus, quand même.
Bon, parlons un peu de Montpellier, si vous le voulez bien. Baptiste est avec nous, supporter de la Paillade. Baptiste, bonsoir.
Bonsoir à vous. Bonsoir.
Salut Baptiste.
Salut Baptiste.
Bon, malgré la défaite, qu'est-ce que tu as pensé du match de ton équipe là?
Alors, si je peux me permettre, avant de parler du MHSC et du match de ce soir et de la spirale un peu négative qu'on est en train de vivre actuellement, j'ai un petit coup de gueule à passer, qui n'est pas contre RMC évidemment. C'est contre Monsieur Pierre Ménès, qui est imbuvable, qui a eu, à chaque fois que Renato Sanchez a touché le ballon, des petits cris juste insupportables, une espèce de non-objectivité comme il devrait en avoir. Et c'est souvent quand il commente les matchs contre Montpellier. Et ça commence à être vraiment
fatigant. Je vous passe cet au goût de l'œil, il n'est pas là pour répondre. Donc,
Je sais bien, mais c'est pas grave. Au moins, c'est dit, c'est entendu, peu importe. Ça me fait du bien, en tout cas, de le dire. Je vous remercie.
Bon, en tout cas, c'est pas le sujet, évidemment,
c'est
du soir.
C'est une thérapie, quoi.
Mais c'est quand même insupportable.
Parle-nous de ton équipe, mon pote.
Voilà, sinon, si je peux parler de Montpellier deux minutes, évidemment, en ce moment, ça paye pas. On n'est pas forcément dans une bonne période, malgré les efforts quand même de l'ensemble de l'équipe, parce que ça se bat, ça court, il y a de l'envie. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas la réussite de l'année dernière.
Je me
rends compte quand même que Souquet, par rapport à Aguilar, on n'est pas sur le même registre, le même niveau, et forcément, les couloirs au Montpellier-Hérault avec Darren Carin, ils ont un schéma.
Baptiste, t'imagines qu'Aguilar, il n'est même pas titulaire à Monaco.
Et je sais bien, mais bon, t'imagines, la saison qu'il a fait à Montpellier l'année dernière, c'est pas le Souquet qu'on a aujourd'hui. C'est les joueurs qui se battent et qui donnent tout ce qu'il a, et j'ai pas de problème avec ça. Mais n'empêche que ça reste léger, et offensivement, et surtout défensivement, il manque un peu de lenteur. Ça fait deux matchs qu'il est à l'attaque. Alors, c'est vrai qu'il a deux clients, hein, Renato Sanchez et Neymar, mais au-delà de ça, défensivement, c'est un peu plus poussif.
Moi, j'ai pas trouvé Montpellier horrible. Hein.
Fait un bon match encore, mais on manque de réussite, c'est vrai.
Franchement, je vais te dire, Montpellier, on l'a dit plusieurs fois avec Ludo dans le week-end, c'est qu'il faut absolument que Montpellier ait l'ambition de jouer le top 3 de Ligue 1. Après, le problème, c'est quand tu regardes la série.
Top
3, t'abuses.
Top 3, top 5.
Top 5.
Voilà. Après, le problème, quand tu regardes la série des matchs, t'as joué contre Lille, t'as perdu. T'as joué contre le Paris Saint-Germain, tu as perdu. Tu fais un match nul contre Dijon, qui est pas non plus un foudre de guerre. Tu gagnes contre Amiens avec une grosse victoire, mais Amiens prend un carton rouge assez rapidement. Tu fais match nul contre Saint-Etienne. Le problème de Montpellier, et je pense qu'on verra le vrai Montpellier en janvier, c'est que cette équipe est destinée à jouer avec Ferry, Savanier au milieu de terrain. Pour l'instant, à part un match, tu n'as jamais été capable de les aligner ensemble. Savanier reprend son rythme. Il a été blessé longtemps. Comment?
Et tu fais quoi de Mollet dans
ton match? Je le mets avec.
Tu mets les trois.
Je mets Savanier. Je sors Chotard. Oui, je sors Chotard. Et Lotalek, il est pas mal derrière aussi, je trouve.
Je sais pas. Pedro Mendes ce soir, il nous a manqué, hein, parce que ça reste quand même aussi un vrai leader derrière. On a perdu le petit Koza qui était aussi en train de s'imposer et qui était assez intéressant. Mais au-delà de ça, peu importe les absents, il y a quand même mine de rien des joueurs assez intéressants.
Oui, mais par exemple Savani, ça doit être ton maître à jouer. Il n'est pas encore en forme.
Et j'attends de voir un petit peu sur le long terme. Moi, je m'interroge. Ça fait 2-3 matchs que Mollet est mis de côté au détriment de Savanier et surtout du petit Chotard qui ma foi.
C'est Chotard surtout qui prend sa place.
À prendre sa place, peu importe. Mais moi, je déplore un peu le fait qu'on ait enlevé un petit peu les clés du milieu de terrain et de ce côté un petit peu leader technique qu'avait Mollet depuis 2 ans, notamment sur les coups de pied arrêtés.
Ah, t'as raison là-dessus.
Il se retrouve à les tirer et moi, je trouve que Mollet les tire mieux. Notamment, surtout qu'il en a mis 2 déjà, en Coupe de la Ligue.
Après, ouais, mais t'oublies une chose, c'est que dans le jeu, il a eu une période de 3-4 matchs où c'était quand même un petit peu compliqué. Il manquait de rythme.
Mollet.
Physiquement, il était un petit peu court. Oui, Mollet. Ouais, il était quand même physiquement un petit peu court. Après qu'il est sorti de l'équipe. Juste qu'il est sorti de l'équipe. Je comprends.
Je veux pas dire de
mais maintenant,
mais
non, mais juste pour terminer, je pense qu'il doit revenir dans l'équipe à terme. Mais c'est normal qu'il le sorte un petit peu. Après, je pense que t'as un milieu de terrain, tu as des possibilités qui sont quand même assez importantes avec Ferry, avec Chotard, avec Mollet, avec Savanier. Mais ça va être à Derzakian de trouver la bonne formule parce que tu as l'effectif, et j'insiste là-dessus, tu as l'effectif pour jouer le top 5.
Non, mais c'est...
Pour l'instant, tu n'as pas réussi à concrétiser tous tes bons matchs avec des points, à l'instar du match contre le Paris Saint-Germain. Mais je pense que le vent va tourner parce que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance.
Il se murmure que Montpellier veut recruter un attaquant au mercato d'hiver.
Bah, je pense que t'es obligé.
C'est pas une mauvaise idée parce que quand on lève Laborde et Delors,
tu joues à deux devant.
Le pauvre Skulečić, il arrive à rien.
C'est ça. Tu joues à deux devant et t'as deux
Camara,
attaquants.
Il commence à avoir quand même 55 ans. Donc, j'exagère un peu.
En fait, t'as besoin d'un troisième attaquant.
Ça n'enlève rien aux qualités. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Montpellier depuis le début de saison. Autant au niveau du cœur que du courage, que de plein de choses. J'adore le dernier match qu'ils ont fait, notamment avec la spontanéité de Delors quand il frappe de 35 mètres. Voilà, c'est. Je regrette que Michel Desarcarian, à un moment donné, il a une triplette devant qui fonctionne très bien et qui fasse le choix de nouveau quand ça fonctionne un peu moins bien de dire voilà, je retire Mollet et je remets. Je remets plutôt le triangle pointe basse plutôt que le triangle pointe haute. Avec Mollet dans
Mollet
avec Delors, avec la bord de l'or. Et bizarrement, tu te dis quand les trois sont ensemble, ça fonctionne et quand même beaucoup mieux. Quand il y en a un qui est sur le banc.
Et l'année dernière,
je comprends pas pourquoi Mollet, qui est très bon au demeurant et qui performe tout le temps. Je comprends pas pourquoi ce joueur est mis là en retrait alors que
capable de changer le cours d'un match.
Mais c'est
ça t'as raison mon pote.
La triplette fonctionne très bien ton problème c'est de dire voilà au milieu en fonction je fais jouer Mollet, je fais jouer les trois devant et après comment je m'organise derrière. Je trouve décevant de Michel Desarcarian notamment sur les statistiques que peuvent avoir cette triplette. Tu regardes les trois, c'est-à-dire que dès que t'en retires un des trois, tu sens que c'est pas la même chose. Je regrette que Michel Desarcarian fait le choix de Chotard plutôt que le choix de Mollet.
Les gars, l'année dernière, quand on était tous enthousiastes sur Montpellier, il y avait pas ce choix-là. Hein. C'était Mollet qui faisait tous les matchs.
Mais on l'est toujours.
C'était Mollet.
On l'est toujours. On s'est enthousiasmé il y a pas si longtemps pour eux.
Donc je pense qu'il faut le laisser.
Baptiste, un truc à rajouter?
Oui, je souhaite bonne chance au FC Occitan qui joue le titre à MPG. Allez mon Guigui, c'est ta saison.
À la bonne heure.
Très bien. Salut Baptiste.
Ciao Baptiste.
Bonne soirée.
Bonne soirée mon pote.
Petite évaluation les gars, il y a deux trois joueurs qu'on n'a pas cités qui ont fait un bon match. Je pense par exemple à Iconé ou Soumaré. Ouais.
Ah ouais. Benjamin André aussi.
Benjamin André. Ouais.
Toujours. Okay. Dans le placement, il est précieux. Passe.
Ouais, donc finalement, le seul problème un peu lillois ce soir, c'était la défense. Hein,
dans la c'est pas la défense, c'est le système défensif.
Non, comme on le dit depuis un moment. C'est-à-dire que on a une base depuis le début de saison qui donne des garanties. Mais depuis peut-être 1 ou 2 mois, ces garanties sont moins visibles.
C'est le système défensif.
Moi, Gabriel, il me donne moins de certitude. José Fonte, pareil. Diallo, une fois sur deux. Soumaoro,
Bradaric, il est bon
beaucoup blessé.
Mais...
Bradaric ou Reinildo, moi je préfère Bradaric parce qu'il est très intéressant offensivement.
Mais
Reinildo, okay, c'est gros volume de jeu, mais pour moi il est inintéressant dans le système offensif. Mais c'est vrai que Bradaric, offensivement dans les derniers mètres, il peut créer la dernière passe, mais défensivement, il a toujours des lacunes. Donc, ce qui faisait la force du LOSC, c'est-à-dire d'avoir une base défensive plus que stable quand même.
Bah oui,
il faut le dire. Plus que stable. Bah aujourd'hui, c'est moins le cas. Et c'est ce qui fait que...
Je vais ajouter une chose, Ludo. C'est que par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, tu avais un milieu de terrain avec Sheka et Thiago Mendes. Peut-être un petit peu moins talentueux
que cette année. Sheka, il est l'ombre de lui-même.
Ça, on est d'accord. Voilà. Mais l'année dernière, au moins, ce que Sheka et Thiago Mendes savaient, c'est qu'ils étaient ultra disciplinés.
Alors,
c'est que dans les phases de transition, ils étaient toujours en train de se replacer en l'archer central.
André,
là, cette année, André, c'est bien, mais il court un peu partout.
Ouais, mais André Soumaré, c'est exceptionnel au milieu.
Oui, mais c'est moins discipliné.
C'est bien meilleur que Sheka en ce moment.
Mais c'est moins discipliné tactiquement.
Je vais quand même vous faire remarquer qu'au classement, il y a un petit trou qui se fait. Alors, évidemment, les autres n'ont pas joué, mais enfin, en fonction de ce qui se passe ce week-end, Lille pourrait se retrouver avec un petit matelas sur le podium, hein, avec Marseille et Paris. Si Rennes et Bordeaux ne gagnent pas ce week-end, voire et Nantes non plus, enfin voilà, il y a un petit trou. 31 points pour les Lillois ce soir, 27 pour Rennes qui a un match en moins.
Enfin, Gilbert.
Rennes a deux matchs en moins d'ailleurs.
Enfin, il y a des équipes qui se détachent. C'était pas le cas depuis un
moment. C'est le cas en bas du classement et en haut.
Tout est basculé. Tu perds deux matchs, tout bascule aussi.
Oui, mais enfin, avant, c'était plus serré quand même, mathématiquement parlant. Un petit tour sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. Sur le hashtag RMC Live, on me dit, c'est le côté obscur du foot qui lui dit, moi, mon regret, c'est qu'on n'ait pas vu jouer ensemble Roten et Aubraniak, qui nous auraient donc fait une Neymar Cavani sur tous les coups francs.
Sauf que Jérôme est bien meilleur.
Jérôme aurait été très bon sur les pénaltys. Mais il n'y a pas photo sur les coups de pied arrêtés. Je suis bien au-dessus de Jérôme. vous pouvez regarder les coups francs que j'ai mis. Bon, sans problème, je suis au-dessus de Jérôme. Donc on aurait été très bien. Moi, dans le milieu à 3. Et Jérôme, plutôt excentré sur le côté gauche, ailier.
Seven me dit Furlan, mort de rire. Ce mec-là, tu lui donnais les joueurs du Real, il descendrait en Ligue 2. Donc il n'y a pas que des fans de Furlan, tu remarqueras.
Furlan, il n'a pas l'effectif. Il fait avec l'effectif de Francis Gillot et de Pablo Correa. Donc donnez à Jean-Marc Furlan l'effectif dont il a besoin et vous verrez que.
D'autres latéraux surtout.
Et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Jean-Marc Furlan, je vous le dis, j'ai joué à Auxerre. L'effectif actuel, il est quasi le même qu'il y a deux ans. Ils ont quasiment rien recruté. C'est la même chose. Jean-Marc Furlan, il a besoin d'avoir 5-6 joueurs clés dans son équipe, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, il faudra attendre l'année prochaine parce que ça
prend.
Monsieur Zou mette des zous, mais il les met déjà, honnêtement.
Nicolas Jamin va organiser un débat dans l'after, comme à l'image de ce qui se fait dans les primaires, avec Jean-Marc Furlan et Christian Gourcuff.
Ah bon?
Très bon.
Ça serait pas mal quand même.
C'est pas bête.
Ouais.
Ah, ça aurait de la gueule.
Très bon.
Oui, mais le problème, c'est que j'ai peur que finalement, ils se rejoignent. Tu vois, que ce soit tous les deux du même bord, en fait.
Bah, tu veux inviter qui? Tu es invité quand?
Ah non, à ce moment-là, il faut mettre, par exemple, Jean-Marc Furlan et René Girard.
Non, mais Daniel.
Si tu veux deux écoles différentes.
Quelle horreur.
Tu vois, si tu veux deux écoles.
Mais Daniel, avec nous, ça va aller. Hein.
Ou Daniel, voilà. Et puis, tiens, j'ai petit gars qui lui dit Black, maintenant, Jonathan nous donne des leçons de musique. Aïe, 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 il prend trop la confiance, ce gamin,
Désolé d'avoir l'intégrale des Stones, désolé d'avoir l'intégrale de Led Zepp et de ne pas écouter vos merdes et que je ne savais même pas que c'était Jules. Je ne savais même pas qui était Jules jusqu'à il y a deux semaines. Et maintenant, je sais. Et je suis content de ne pas avoir savu ce que c'était.
Et il y a Julien qui lui dit moi, c'est sur. C'est qui me dit, hein? Moi, c'est ma grand-mère qui a dans sa playlist les Rolling Stones.
Ta grand-mère a très bon goût, mon pote.
Gilbert, quand je pense que j'étais mangé chez Jonathan tout à l'heure, il avait la playlist de Maître Gims. Putain.
T'es sérieux? On a écouté l'intégrale des Stones, s'arrête un peu.
Ça m'a fait du mal, hein, je te le dis.
Ah ouais. Vous étiez censé regarder la Ligue 2, non?
Non, on a regardé le match.
on a coupé parce que le commentaire était un petit peu.
Et pendant ce temps-là, il y en a qui bossent au bureau, bravo. Dans quelques instants, Lyon. Au programme, supporters lyonnais, on vous attend. C'est maintenant que nous allons débattre ensemble. Les Bad Guns sont-ils en train de prendre en otage l'Olympique lyonnais? On va débattre, bien sûr. Vous allez entendre Rudy Garcia qui s'est exprimé aujourd'hui concernant Marcelo. Et puis tout à l'heure, Ludo nous parlait de Jean Fernandez en Ligue des Champions. Nous, on a des archives dans l'after.
Magnifique.
Et Jean Fernandez, il nous a quand même sorti un truc de dingo. Soir du tirage au sort. C'est-à-dire que là, on a compris qu'Auxerre allait perdre tous ses matchs. Écoutez.
Je vous l'avais dit. Vous l'avez dit, hein, je ne me suis pas trompé. Hein. Je le sentais. Hein. Oh, c'est dur. On va finir troisième.
Énorme.
Je vais pouvoir serrer la main à Mourinho. Ça, c'est quand même... Hein, ça, c'est sympa. Hein. Je vais faire une photo avec lui.
Voilà, nous, on a entendu ça, on s'est dit, ah, ils sont pas bien au cerf, là.
Non, mais c'est
foutu.
Ne critiquez pas Jean-Fernandez.
Et alors, il y avait Yélène et Mignot quand même.
Non, ne critiquez pas Jean-Fernandez.
Yélène et Mignot, t'as raison.
Irénouz, Yélène.
Yélène, il a fait une bonne saison. Hein.
Bien sûr. Il a été en Italie, il était très bon. Et comment s'appelait le meneur de jeu?
Il a joué avec toi en sélection,
le meneur, et le meneur de jeu d'Auxerre, là?
Pas longtemps, mais.
Ce meneur de jeu d'Auxerre qui est en Italie après, qui a été très bon. Milieu de terrain, relayeur.
Kallenberg.
Les auditeurs vont le retrouver.
Genoa, français?
Non, polonais.
Ah oui, Bjersa.
Bjersa.
Walter Bjersa.
Très très bon joueur. Il a fait une grosse carrière en Italie.
Il était attaquant, il était meneur de jeu, Bjersa.
Il joue en 10, Gilbert.
Bon,
il jouait derrière l'attaquant.
Non, mais Jean Fernandez, honnêtement. Quand t'as à peine 20 ans, en termes de professeur, c'est l'idéal.
Ah oui?
Ouais. Alors je te dis pas, passer la trentaine, compliqué de pouvoir travailler avec Jean, mais quand t'as entre 20 et 25 ans...
C'est plus un formateur alors.
Bah fait. Ouais, c'est exceptionnel. J'ai eu lui et Claude Puel à la suite. Donc si tu veux, j'étais à bonne école, ils m'ont...
Sauf que t'avais plus de 30 ans.
Non, j'ai commencé avec Jean, j'avais 16 ans et demi. Il m'a lancé en pro, Jean, à 16 ans et demi. Jean Fernandez, à Metz. Oui.
Ah, c'est lui qui était à Metz à ce moment-là.
Ben oui.
C'est vrai que Jean Fernandez, il a fait 54 heures en même temps.
C'est pour ça que j'ai une affection particulière pour lui. Mais...
Ah, donc tu voulais le retrouver
non,
après
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais
ils nous ont appris le métier, que ce soit lui ou Claude.
Mais oui.
Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais
c'est quand même lui qui a eu l'idée
moi,
de faire l'attaque.
Ils m'ont inculqué ce que c'est être un grand professionnel. Voilà. Aujourd'hui, c'est eux qui sont mes mentors et qui m'ont fourni les bases de ce que c'est de respecter son métier et comment aborder son métier.
Bon, en tout cas, il ne nous a pas montré la photo avec Mourinho. J'espère qu'il a pu la faire.
J'espère qu'il l'a fait, ouais.
Voilà. Allez, je vous rappelle bien sûr que Lille a battu Montpellier 2-1. Les résultats Ligue 2, vous les retrouvez sur rmcsport.fr. Et nous, dans quelques instants, on débat de la situation à l'Olympique Lyonnais. A tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Ludovic Obraniak qui est là, Jonathan McCarthy aussi, beaucoup de monde sur Direct Studio, notamment Hugo qui nous signale que Bjersa était slovène, hein, et non pas polonais.
Slovène, excusez-moi.
Et il avait fait la Coupe du Monde 2010, notamment avec la Slovénie.
C'est qui joue encore J'ai regardé. À Cagliari, oui. Il a fait 15 matchs cette saison quand même.
Pas mal, belle carrière.
Il a 33 ans et c'est un beau joueur.
Très beau pied gauche.
Et puis Skuletić, le pauvre Skuletić qui n'arrive pas à en mettre un. Hussein nous rappelle que Skuletić, avant d'arriver à Montpellier, était remplaçant dans une équipe relayée en D2 turc.
Est-ce que c'est Skuletić
Gilbert, le vrai regret que j'ai pour Montpellier et pour un joueur et pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y avait un transfert qui était évident à faire. C'était que Marseille donne à Montpellier Valère Germain un petit peu d'argent pour récupérer Andy Delors. Andy Delors.
Andy Delors, il voulait rester à Montpellier, là, c'est chez lui. Il voulait en plus jouer avec Savagnier.
On l'a eu plein de fois, Andy Delors, au téléphone. Non, et plein de fois, il nous a dit que Marseille, ça le tentait. Et Germain, là, à Montpellier, il aurait été comme un poisson dans l'eau. Si, avec deux attaquants, ça aurait été nickel.
Non, si tu prends Benedetto, tu peux pas prendre Delors.
Tu prends les deux.
Non, ça marche pas. Par contre,
alors, Lyon.
Si l'OM veut prendre Giroud, mercato d'hiver.
Giroud, Benedetto, pour toi, ça passe.
Oui.
Giroud, Benedetto, c'est une bénédiction.
Benedetto, Wanchope, Boca Juniors, ça marche très bien.
Et s'ils veulent faire bon l'effort, choper, c'est là qu'il faut faire l'effort.
Mais qui tu mets titulaire alors?
Les deux. Giroud, Benedetto à deux devant,
Gilbert.
Mais bien sûr.
Ah oui.
Mais bien sûr.
Benedetto n'a jamais marqué autant de buts que quand il était associé à Wanchope à Boca Juniors.
Mais bien
à
sûr.
Deux, il est très bon.
On a fait un début de débat hier dans l'after là-dessus et tout le monde s'était accordé à dire que c'était pas possible Giroud et Benedetto ensemble.
Mais très bien. Qui a dit ça?
Vous rigolez.
Il y avait Kevin Diaz.
Ok.
Julien Charbonnier.
Est-ce que Kevin?
Les pointures.
Ok. Est-ce que Kevin, Daniel et Lionel ont déjà vu Benedetto jouer à Boca? Je ne pense pas. Moi, je te dis que les meilleurs matchs de Benedetto, c'était avec Wanchope.
Ouais, mais ça,
Benedetto, c'est un joueur
qui fait tout le temps le pauvre.
Mais non, il a fait une grosse saison, il était champion, il a mis 20 buts, arrête.
C'est un mec qui peut jouer 9, mais qui peut jouer 9,5 sans problème.
Et au Mexique, il jouait sur le
côté. Un peu
même.
Autour de Giroud, quoi.
Mais bien sûr. Et Giroud, c'est le mec qui, c'est le pivot parfait. Regarde comment il met en valeur Griezmann et d'autres en équipe de France.
Je vais ajouter une dernière chose. C'est que les supporters de Boca, quand Benedetto jouait avec Wanchope, ils disaient, ah putain, c'est presque aussi bien que Palermo Palacio.
Ouais.
Palermo Palacio, c'est quand même un des binômes magiques à Boca Juniors.
Sans problème, Giroud-Benedetto, voilà. C'est complémentaire.
Lyon, on y va. Alors, tout le monde connaît l'histoire, bien sûr. Ça date de mardi soir après le match. Altercation entre les supporters et les joueurs. Depuis, ça fait beaucoup de bruit. Marcelo, la femme de Marcelo, Jean-Michel Aulas et Rudy Garcia, qui aujourd'hui est entré dans la danse pour défendre Marcelo, joueur qui, vraisemblablement, on l'expliquait hier soir, fait pas non plus l'unanimité dans le vestiaire. Hein. Il vit un peu dans son coin avec les autres Brésiliens. Il n'est pas vraiment soutenu par tout le monde. Bref, la situation est vraiment compliquée autour de lui. On écoute Garcia et après on élargit le débat, notamment avec Johan et Maxime au 32-16.
C'est inconcevable, ouais. Bien évidemment que c'est inconcevable. Et il souffre, bien évidemment qu'il souffre. Qu'il souffre pas quand vous avez votre épouse au stade, vos enfants et que vous êtes traité de cette manière-là. C'est dur, c'est terrible, ça devrait même pas exister. Reprenez les déclarations de Memphis, de Paille, voilà, qui a été assez exceptionnel après le match pour dire combien elle était fière de la qualif, mais combien elle était triste aussi de voir qu'elle a été un peu gâchée, bien évidemment, par ce qui s'est passé. C'est vraiment dommageable. On a besoin que tout le monde tire dans le même sens si on veut les meilleurs résultats possibles.
Bon, Garcia défend son joueur, on peut le comprendre. Maintenant, les enfants de Marcelo, ils ont aussi vu leur père montrer son majeur à la tribune.
Ce qui est important, c'est d'avoir aujourd'hui des membres des Bad Coons et de savoir la genèse de tout ça.
Mais la genèse, on la connaît. C'est parti de Lisbonne, d'une altercation entre Marcelo et les supporters après le match.
Est-ce que ça justifie ce qui se passe maintenant?
Est-ce que l'OL est pris en otage par un groupe de supporters qui a eu indirectement la peau de Genesio? D'ailleurs, là, vous avez aussi une déclaration hier, il dit j'aurais pas dû céder parce que, en gros, il a aussi subi la pression de tout le monde, notamment des Bad Gones sur Genesio.
Rappel.
Aujourd'hui, si Marcelo s'en va, ça veut dire que les Bad Gones ont gagné. Si derrière Depay s'en va, ça veut dire aussi que les Bad Gones ont gagné. Ouais. Donc, ça pose quand même une question. Il y a des clubs en Italie, en Amérique du Sud, tu connais ça, Jonathan, très bien, où les supporters lèvent le doigt en disant lui, il dégage, et les dirigeants font. On n'en est pas là encore à Lyon, évidemment. Mais enfin, excusez-moi, moi je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans la semaine qui vient.
Le problème de cette situation-là, c'est que Jean-Michel Aulas, en fait, a donné trop d'importance aux Bad Guns. Je pense que les Bad Guns, c'est un groupe de supporters qui met de l'ambiance, qui est remarquable.
C'est un groupe aussi important à Lyon. C'est important d'écouter les tribunes par ailleurs, mais il faut trouver le juste équilibre.
Je pense qu'Aulas leur a donné trop d'importance à chaque fois par démagogie. Je repense à l'épisode de Saint-Étienne jouera à la Ligue des Champions à la PlayStation. Je repense à certaines fois où il n'a pas su trancher dans le vif. Il n'est pas monté au créneau.
Pour rajouter le coup, il allait craquer le fumier pour l'anniversaire.
J'allais en parler, exactement. Où il n'est pas monté au créneau pour soutenir suffisamment Bruno Genesio lors de sa nomination. Et je pense qu'en fait, il y a une situation qui s'est pourrie dans les tribunes de Lyon, avec un groupe de supporters qui est certes est remarquable, les Bad Guns, et un président qui n'a jamais su asseoir son autorité par rapport à ce groupe de supporters.
Et pourtant, il en a l'autorité.
Mais il est démagogue. Il est démago. Les Bad Guns, je suis désolé, il est démago. Il leur laisse faire tout et n'importe quoi, ceux qui décident de la pluie et du beau temps à Lyon.
Je ne pense pas, Jonathan.
Ah, arrête, Gilbert.
Non, je pense pas.
On vient donner les exemples. Non, mais
il y a quelques exemples qui vont dans ce sens, mais moi je te dis qu'il ne laisse pas tout passer et que les relations sont.
Alors dis-moi ce qu'il n'a pas fait passer face
à Bad Guns. Tiens, on a Johan avec nous, qui est au 32-16 là, en direct. Johan, bonsoir.
Bonsoir, l'after.
Salut Johan. Johan, tu fais partie donc de ce groupe d'ultra lyonnais, les Bad Guns.
C'est ça.
Merci d'avoir appelé déjà.
De quoi ?
Merci d'avoir appelé déjà.
Ouais. Juste, c'était pour dire que je parle qu'en mon nom, hein, juste en mon nom.
Pas de problème.
Je suis porte-parole de personne.
Pas de problème, Johan, on est déjà ravis de t'avoir. Est-ce que tu étais au stade mardi ?
Ouais, j'étais au stade. Ouais.
Bon, qu'est-ce que t'as pensé déjà de ce qui s'est passé ?
Alors moi, j'ai un petit coup de gueule en fait. Parce que depuis mardi soir, j'entends les supporters, c'est des abrutis. Alors moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis quelques saisons, on avale des couleuvres, on les avale. Et depuis cette saison-là, c'est pire que tout. On voit des matchs de merde, des joueurs qui ont ni le talent, ni la mentalité. Et nous, on va au stade, on chante, on les pousse. On voit des matchs de merde, mais on chante.
C'est quoi les couleuvres que t'avales, Johan? Depuis des années.
Eh ben, c'est Détail par exemple pour le grand entraîneur. Et on finit par avoir Pep Genesio. C'est des petites choses comme ça. Et nous, on va au stade, on chante, on se casse le cul. Et ce mardi soir, on voit une première mi-temps exécrable. Nul, zéro. Et on les lâche pas, on les pousse, on chante. Et à la fin du match, ils veulent pas venir nous saluer. Ils veulent pas venir. Parce qu'il y a eu un petit incident avec Marcelo. Mais le petit Marcelo, là, il s'est passé pour une victime. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il croise des supporters à Lisbonne, et qui le critique sur sa performance, qu'est-ce qu'il propose, lui, un match de boxe? Voilà ce qu'il propose.
Oui, c'est de là qu'est partie l'histoire entre Marcelo et le groupe de supporters. Hein.
Et nous, on voit des matchs de merde depuis début de saison, on vient au stade. Moi, mercredi matin, je me levais à 6h. J'ai dormi 4h.
Johan, moi je sens ta colère. Enfin, tu comprends aussi qu'un club de foot professionnel aujourd'hui ne peut pas être dépendant des coups de gueule des supporters.
Mais dépendant de quoi?
Bah, c'est-à-dire que c'est pas vous qui pouvez dire, bah tiens, tel joueur, bah, il se barre, parce que nous, on n'en veut plus.
Le problème, Johan, je vais compléter.
J'aimerais que Johan réponde à ça d'abord.
Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a des joueurs qui sont mauvais?
T'as le droit.
Oui, mais...
T'as le droit.
Non, mais... Johan, il n'y a pas de problème avec ce que tu dis.
C'est la liberté d'expression, ça fait partie du... Moi, là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin, un club de foot ne peut pas être dirigé par les ultras, c'est pas possible.
Il n'y a aucun problème avec ce que tu dis. Moi, je ne me le cache pas, je suis supporter d'un club et je ne me cache pas de dire
qu'un joueur
est mauvais, qu'un entraîneur est mauvais, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve, d'un point de vue totalement extérieur, et tu me diras si je me trompe, mais je pense que du côté du point de vue des bad guns, il y a souvent eu un espèce de délit de sale gueule envers certaines personnes. Je pense à l'arrivée de Genesio, qui a été calomnié. On va se rappeler quand Jean-Michel Aulas le nomme, il y a une pétition qui circule pour l'empêcher d'entraîner alors qu'il n'avait jamais dirigé un match de l'équipe première. Je pense à Marcelo. Quand Marcelo signe, tout le monde, on va dire que la majorité des gens, des observateurs du monde du foot disaient c'est peut-être une bonne recrue pour l'Olympique Lyonnais, mais il y a eu un a priori très négatif de la part des Bad Guns. Et je pense que vous faites quand même un petit peu des procès de mauvaise, des procès de délit de sale
gueule. Mais sur Marcelo, c'est l'histoire de Lisbonne. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Enfin, je pense que Johan confirmera. S'il n'y a pas l'épisode de Lisbonne concernant Marcelo, il n'y a pas de problème avec Marcelo, Johan.
Oui, bien sûr, oui. Non, mais le truc, c'est qu'on avale des pilules depuis quelques saisons déjà. Et on voit des matchs nuls, avec des joueurs nuls.
Johan, t'as tort. Gilbert, les pilules, tu les avales pas depuis quelques saisons. Les pilules, tu les avales depuis, allez, on va dire, 1 an et demi. Parce que les pilules que t'as avalées les années précédentes, c'était normal de les avaler. Parce que c'était dans un processus de construction de club avec le fait d'acquérir le nouveau stade, les actions en bourse, et c'était normal de stagner un peu.
Johan et peut-être une certaine partie des bad guns, en gros, ne sont pas en phase avec la stratégie actuelle de l'OL. En fait, c'est ça l'histoire. Actuelle de l'OL, c'est les jeunes. La stratégie où on prenait des stars il y a quelques années, elle n'existe plus et donc on est déçu de ça. C'est ce que dit Johan. Ludo. On arrive, Johan. Ludo d'abord.
Honnêtement, moi je me place du côté des supporters. C'est-à-dire que ça soit pour les ultramarines à Bordeaux, que ça soit pour les Bad Guns à Lyon. Voilà,
c'est pas du tout le même cas.
Non, c'est pas le même cas, mais si tu veux, à un moment donné, c'est ces gens-là qui font que aujourd'hui le football existe. C'est-à-dire ces gens-là viennent, supportent, font tout ce qu'il faut pour que voilà. Il peut y avoir des dérives et je vais pas aller à l'encontre de ça. C'est-à-dire que le mec, j'espère que d'ailleurs Johan ne va pas comment dire
franchir les limites.
Mais non, mais ne pas supporter ce mec qui est sorti du terrain. Brandir un drapeau.
Ça, tu le condamnes. Non, mais évidemment, t'es du côté des supporters, mais tu condamnes le gars qui va sur le terrain avec sa banderole.
Pour moi, les supporters sont rois. C'est-à-dire que tu viens au stade, t'as payé ton truc, t'es machin, t'as le droit d'à un moment donné d'émettre une critique, t'as le droit de siffler, t'as le droit de contester.
Nous sommes d'accord sur ce
point. Parce que t'as payé ton ticket et qu'à un moment donné, si le spectacle n'est pas à la hauteur de. Alors. On peut avoir différentes visions de ce qu'est le supporter. Le supporter qui dit, qui avale toutes les couleuvres.
Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que d'habitude, les anciens pros sont plus sur une ligne à dire.
Je comprends totalement. Voilà. Je comprends totalement. Tu peux avoir le supporter qui avale les couleuvres et qui dit, mon club, c'est mon club. Quoi qu'il en soit, si ça se passe mal, je le supporterai jusqu'au bout. Je respecte ces gens-là. Principalement. Mais je peux aussi respecter les gens qui, à un moment donné, payent leur place et disent voilà, le spectacle il est pas à la hauteur de ce que nous on estime, on est là tout le temps, on supporte le club tout le temps, on fait les déplacements et sur Marcelo je peux suivre Johan sur le fait que on peut critiquer Marcelo, on peut contester le fait que c'est un joueur qui est pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre de lui. Et par contre, je vais à l'encontre de ce mec qui arbore un drapeau avec un âne dessus. Ça, par contre, ça me, ça me débecte. Rigueur, vraiment, clairement. Il y a assez de les supporters.
Non, mais il n'y a rien de méchant, forêt.
Non, mais, non, mais, Johan,
je rappelle Figo et Johan, il a dit à Barcelone, ils l'ont jeté une tête
de porc. Tu sais ce que c'est être comparé à un âne, quand même, s'il te plaît. Le mec il est pas chez lui.
On est à Lyon, c'est les guignols, voilà.
Bah, voilà.
C'est une caricature.
Mais moi je vous soutiens.
Non, mais y a rien de méchant.
Mais pas ça.
Marcelo dégage, il y a aucune insulte. Ouais, mais
tu sais quoi,
Johan, pas tous les récents.
Par rapport à ce que j'ai dit sur les bad guns, je le tiens. Par contre, sur le fait sur la banderole avec l'âne, j'ai même limite trouvé ça un peu marrant parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe dans certains pays. Quand Figo retourne au FC Barcelone qui se prend une tête de porc, c'est pire.
Le problème c'est le fait que le mec vienne sur le terrain. C'est envahissant de terrain. La banderole, elle reste dans la tribune. Voilà. C'est pas du tout la même histoire.
C'est un problème de sécurité, là.
Tu vois,
c'est un problème de sécurité pure. C'est un problème de supporter.
Tu sais quand même que, par rapport à ça, l'OL est un club qui veut grandir. On est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un capitaine qui s'est positionné, qui était. Et je pense pas que c'était du cinéma. Un mec qui était les larmes aux yeux, qui est le meilleur joueur de votre équipe aujourd'hui. On peut se le dire.
C'est le meilleur, hein, de loin.
On peut se le dire quand même. C'est-à-dire que ce joueur-là, il faut le garder, il faut construire autour de lui, si tu veux.
Et ben justement,
vous attendez.
Non, mais attendez.
Attention, non. Parce que vous risquez de le perdre de paille avec tout ça.
Mais c'est ça.
C'est ça.
Et les autres qui voudront venir à l'avenir.
Alors, vas-y, je reviens pas pour toi là-dessus.
Non, non, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que nous, si on n'est pas là pour mettre l'ambiance, le stade est mort, d'accord?
Mais Johan, je viens de te le dire. J'allais dans votre sens. J'affluais dans votre sens.
D'accord.
En disant que si vous n'êtes pas là, il n'y a rien.
Alors, laisse finir, Johan.
Mais
il y a des joueurs qui refusent.
D'accord.
Après une qualification, de venir nous saluer alors qu'on les a pas lâchés et que depuis le début de saison, on voit
des
matchs
de merde. Je suis totalement d'accord avec toi. Et on
ne
parle pas de ça. Moi, je conteste pas ça. Moi, les joueurs, que ça soit bon ou que ça soit pas bon, quand les supporters sont là et qui manifestent leur encouragement, ok. Mais tu peux aussi comprendre que l'équipe, une équipe, c'est un groupe. Alors, on reproche souvent aux clubs de foot ou aux joueurs, notamment de pas être assez solidaire, de pas former une unité. Là, même fils de paille, il te dit quoi? Il te dit, moi, si je suis sur le terrain pour jouer un tel match, c'est difficile pour moi de me battre, sachant que mes supporters sont en conflit avec
ceux qui refusent de venir nous voir, ceux qui refusent.
Johan,
s'il
vous plaît, le temps passe. Johan, est-ce que tu sais s'il y a des choses spéciales de prévues pour le match contre Rennes dimanche?
Bah non, je sais pas. Mais Johan, je pense qu'il y aura 2-3 banderoles, oui.
Johan, il n'y a pas moyen de trouver un arrangement, sans déconner. Il n'y a pas moyen de trouver, à un moment donné, une discussion. Mais pourquoi il n'y a pas moyen?
Non, mais parce qu'il y a des gars mais qui sont là depuis
quel
10
gars
ans.
Mais quel gars
ans. Attends, laisse parler.
Quel gars, Johan?
Mais parce qu'il y a des supporters mais qui sont là depuis 10 ans, 20 ans,
okay.
Qui font tous les déplacements.
Ok,
et qui
je
sont
comprends
là pendant
ça.
Encore 10, 20, 30 ans. Et eux, ces joueurs-là qui n'ont aucune mentalité, qui sont nuls, ils sont que de passage pour prendre leur chèque. C'est okay. Ça l'histoire.
Okay.
C'est ça l'histoire.
Mais ça, je peux comprendre ça. Ok, d'accord. Je comprends très bien ça.
Il faut qu'on fasse.
Mais toi, qu'est-ce que t'attends? C'est quoi ton.
C'est qui part cet hiver?
La hauteur des ambitions de l'OL. Et que quand nous, on les pousse.
Non, mais tu racontes n'importe quoi.
Non,
Johan,
non, s'il te plaît, laisse parler, Johan. On conclut avec Johan.
Vas-y, Johan. Vas-y.
N'importe quoi.
Pourquoi? Bah, dis-moi.
Je pense que parce que de la. Non, mais. Ok, non, on va en pub.
Exactement.
Je réponds après alors.
Alors, non, parce qu'il faut qu'on arrête avec Johan, parce qu'on reçoit beaucoup d'appels. Moi, j'ai envie de donner la parole à tout le monde. Il y a Maxime, par exemple, qui attend.
Juste.
Alors, le mot de la fin pour toi, Johan, vas-y.
Ouais. C'était juste un petit aparté. Il y a quelques mois, tu faisais un jeu, Gilbert, où on pouvait prendre n'importe quel joueur dans notre équipe.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens.
On jouait dans ton club. C'était
ouais. Et on pouvait dire Pelé, Maradona, Cruyff. Il y a un supporter de l'OL qui est passé. Et qui a dit Traoré. J'ai failli avoir une crise cardiaque.
Oui, non, mais là, je me rappelle, t'as raison.
Bon, moi, je m'en souvenais pas de celle-là. Alors, bon, Johan, en tout cas, merci de ton témoignage.
On conclut, on est tous d'accord.
À très bientôt dans l'after. Salut, Johan.
Ciao. Salut, Johan.
Salut, Johan. Dans quelques instants, Maxime, il veut réagir lui aussi. Beaucoup d'appels au 32-16 sur ce sujet. On continue le débat lyonnais, donc, dans quelques instants, dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Ludovico Bragnac, avec Jonathan McCarthy, on va conclure le dossier lyonnais tout de suite avec Maxime. Dans l'after, il est là au 32-16 avec nous. Salut Maxime.
Bonsoir, monsieur.
Salut, Maxime. Maxime.
Ah, Maxime, toi, tu ne fais pas partie des Badgones?
Ah non, du tout. Les supporters de l'OL, en fait.
Tu fais partie d'un groupe quand même de supporters?
Non, non, du tout. Non, non. À chaque fois que je remonte, je vais au stade voir Lyon, mais je suis pas membre d'un groupe de supporters.
Bon, alors toi, tu penses quoi de ce qui s'est passé? On a eu le point de vue de Johan, qui est Badgone. Quel est ton avis à toi?
Honnêtement, je trouve ça triste.
Ouais,
c'est triste. Vrai. Triste par rapport à l'image que les supporters dégagent. Parce que je pense que c'est pas l'image même d'un supporter de foot. Donc triste par rapport à plein de choses, par rapport aux joueurs. Malgré la qualification, on a donné vraiment une mauvaise image de Lyon, je trouve, pour ma part, c'est mon avis. Et je pense que c'est la conclusion de pas mal d'années où ça part un peu en cacahuète. Où le président, je pense, a pas su faire des bons choix, que ce soit les années d'avant et même cette année.
Donc t'es d'accord avec Johan sur la stratégie? Alors il le disait avec des mots un peu différents, mais sur la stratégie, te convient pas non plus, la stratégie globale du club depuis quelques années?
Ben, c'est pas qu'elle me convient pas, c'est qu'en fait, il fait des choix qui sont tout l'inverse de ce qu'il dit dans la presse. Donc là, comme on va reprendre toujours le même cas, mais c'est le cas le plus récent, on change, il licencie Silvinho, mais on a tous les supporters attendent un grand entraîneur. On attend tous Laurent Blanc, on va pas se mentir, tout le monde le sait. Ouais. On se retrouve avec Rudy Garcia alors qu'il nous a balancé des pics pendant toutes ces années qu'il était à l'OM.
Je peux bon, te après, le dire, mon pote, je peux te le confirmer.
Après, c'est bonne guerre, mais... Donc, mais
Maxime,
voilà,
j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu attends de la fin de saison de l'Olympique Lyonnais et qu'est-ce que tu attends surtout de la prochaine intersaison? Changement d'entraîneur, changement de direction sportive. Dans l'idéal, toi, tu veux quoi?
Mais qui changement d'entraîneur? Tu viens de le signer, Rudy Garcia.
J'ai dit prochaine intersaison d'été.
Ah oui.
Alors, la réponse de Maxime.
Alors moi, je pense que la prochaine intersaison, après, c'est que mon avis.
Été, hein.
Voilà. Je pense qu'il faut vraiment tout changer le staff. Honnêtement, je pense qu'il y a pas que c'est pas Rudy Garcia, je pense le
problème. Mais Juninho, t'en fais quoi?
C'est ça, ouais.
Eh ben ouais, moi c'est ça qui me choque aussi, c'est qu'on l'a pas entendu depuis mardi soir. Il est directeur sportif, il a pris la parole à aucun moment. Enfin, je trouve ça bizarre.
Non, mais il est mort dans le film, Juninho. Et il a fait un choix, il s'est trompé. Depuis qu'il a fait ce choix-là, il est mort. Et Jean-Michel Aulas a repris la main. Lui, c'est le pantin qu'on va envoyer quand.
On va envoyer au feu pour les supporters.
Voilà. Mais Juni, moi, je l'adore ce mec. Et j'adore le joueur, j'adore le mec qu'il est. Aujourd'hui, il n'a plus la main.
À partir du moment où Silvinho est parti, il ne sert plus à rien.
Mais s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît.
Allez, pour conclure, Ludo.
Non, s'il vous plaît. Trouver à un moment donné Lyon est dans une vraie difficulté, honnêtement. C'est-à-dire que c'est un miracle quand tu vois le match, c'est un miracle que tu te qualifies en 8e de finale.
C'est aussi grâce aux
statistiques. Et à un moment donné, quand t'as des miracles qui se produisent, faut rendre grâce. À un moment donné, faut rendre grâce. Et je crois qu'il y a des joueurs qui méritent.
Amen, Ludovic Obraniak.
Mais non,
il faut qu'on conclue.
Les joueurs, ils sont critiquables. Ils sont tout ce qu'on veut. Marcelo, très bien. Ok, il y a un conflit avec lui. Mais les gars, vous êtes au-dessus de ça quand même. Vous supportez l'Olympique Lyonnais. Vous n'allez pas aller pour Marcelo, un joueur qui est de passage, qui a été vraiment. Allez, pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre.
Voilà,
consensus, on se calme. Voilà, 8e de finale, les gars. Et tout le monde derrière votre club.
Emeric est avec nous.
C'est terminé.
Salut Gilbert.
Salut Emeric.
Emeric, t'as été tiré au sort.
J'ai été tiré au sort.
Et j'ai la petite enveloppe là, avec ton cadeau à l'intérieur.
Oh putain, ça sent la Xbox.
Voilà,
la
là, Xbox 4. On est déjà à la bourre.
Xbox 4.
Eh ben non, tu gagnes, mon petit Emeric, pour Noël, une PS4.
Bravo.
Super.
Mais il avait dit dans les grandes gueules Xbox 4.
PS4. Je monte même le truc, c'est comme ça. PS4.
Voilà. Bravo Emeric,
c'est pas une PS1 ni une PS2, c'est une PS4.
Joyeux Noël, mon pote.
Bravo Emeric, joyeux Noël.
Super.
Emeric, il y a la PS5 qui s'en va pas longtemps. Putain, tu t'es fait arnaquer.
Le grand jeu de Noël revient lundi matin, bien sûr, et lundi soir dans l'after. Ludo, Jonathan, merci les gars. Vous serez là demain soir. C'est fini.
RMC Fighter Club maintenant avec Sefiu. Un gros, gros, gros preview de l'UFC 245 qui sera en direct sur RMC Sport 4. Ne loupez pas ça, on s'est régalé.
Ça, t'avais le droit de dire.
Et Cyril Benzakem, qui est à nouveau, qui était dans le Moscato Show cette semaine. Qui est de nouveau champion du monde.
Ah bah
voilà, félicitations à lui.
Bonne nuit à tous et à demain soir dans l'after. L'after demain soir à 22h avec Jonathan et Ludo.
RMC. L'after foot.
Hey smartphones, Duracell Bunny here.
This season, you guys are going to be on the road for an eternity trying to find in-laws in town so small, they sound made up. Luckily, this Duracell power bank will give you up to 3 full charges to keep you powering on through playlist after playlist after playlist of mind-numbing holiday anthems. And who doesn't love that? Pick up a Duracell power bank and power on. Number of charges on the iPhone 8 and Duracell power bank 10,050 mAh. Results will vary by device and conditions.